Donc ce soir, on va voir un autre sujet qui découle du premier que l'on a vu la dernière fois, qui est la liberté religieuse et la tolérance. L'espoir d'une unité religieuse et ecclésiale de l'Europe a disparu au XVIe siècle. Cette période, dite période de la Renaissance, était aussi une période où surgissaient les États centralisés. Et pour cette raison, un État centralisé voulait dire un État unifié. Et l'unification, c'était aussi l'unification, évidemment, en matière religieuse. Et c'est ainsi que des États qui avaient vécu d'une certaine manière un certain pluralisme religieux, notamment les États de la péninsule ibérique, Espagne et Portugal, ont mis fin à cette situation qui leur semblait incompatible avec l'émergence d'États modernes. Et cette situation a conduit à l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492, du Portugal en 1497, et puis ensuite, un siècle plus tard, à l'expulsion des Morisques, c'est-à-dire des musulmans qui se trouvaient encore dans ces deux pays. Et juste au moment où il y avait, n'est-ce pas, cette mystique de l'unité, a éclaté la réforme. C'est tout à fait intéressant de voir que la réforme a éclaté à ce moment-là, et c'est ainsi que l'unité de l'Europe a volé en éclats, donnant lieu justement à ces guerres de religion d'autant plus exacerbées que précisément les princes n'étaient absolument pas prêts à tolérer dans leurs états un pluralisme religieux, une diversité religieuse qui aurait été susceptible de nuire justement à la vision unitaire qui était la leur. Et finalement, après ces guerres de religion, on va aboutir à un principe qui sera celui justement de ce qu'on appelle la paix d'Augsbourg, qui est basé sur le fameux slogan qu'on a déjà vu en histoire d'Église, « Cuius regio, cuius religio », la religion du prince et la religion du peuple. C'est-à-dire que, précisément pour maintenir l'unité de l'État, si le prince est catholique, l'État sera catholique, tous les citoyens devront être catholiques. Si le prince est protestant, tous les citoyens devront être protestants. Et ceux qui ne s'accommoderaient pas individuellement de cette situation-là ont toujours loisir d'aller se réfugier dans un État qui pratique la religion qu'ils souhaitent pour eux-mêmes. Ce principe, n'est-ce pas, qui est en quelque sorte déjà un compromis, maintient donc l'unité des États, mais en même temps introduit déjà une sorte de tolérance dans les faits, dans ce sens que l'Europe, en tout cas, perd son unité religieuse et s'introduit un pluralisme de faits. L'exception dans cette Europe, c'est justement la France. La France qui va, après justement les guerres de religion, aboutir à cet événement qu'on célèbre cette année, qui est l'Édit de Nantes. L'Édit de Nantes est loin d'être, comme on a un peu trop idéalisé, n'est-ce pas, une charte de tolérance véritable, n'est-ce pas ? C'est une manière, plus exactement, de s'accommoder de l'inévitable, tout en ménageant l'avenir étant que la religion catholique doit redevenir prépondérante en France. Mais en attendant, n'est-ce pas, pour éviter des maux, notamment représentés par les guerres de religion, on trouve un modus vivendi, la religion catholique étant la religion dominante et une certaine place étant accordée au protestantisme comme religion de second ordre. Cet édit de Nantes durera, on le sait, quelques dizaines d'années. Il sera ensuite progressivement restreint jusqu'à son abolition donc par Louis XIV au moment de l'édit de Fontainebleau. On s'accommode donc d'un mal qui est inévitable. C'est vraiment la tolérance au sens négatif du terme, c'est-à-dire tolérance, c'est souffrir. Tolérer en latin, ça signifie souffrir. et supporter en quelque sorte. On supporte ce dont on ne peut se défaire. On supporte que l'unité de l'État soit mise à mal parce que finalement on ne peut pas faire autrement. Mais ça ne veut pas dire qu'on se réconcilie avec cette idée. On va faire en sorte que cette existence d'autres doctrines, d'autres pensées, d'autres courants religieux soit restreint le plus possible et puis petit à petit de ramener les dissidents dans une vision plus juste des choses. Puis intervient la Révolution française, l'État se sécularise et apparaît donc petit à petit, il faudra longtemps pour qu'elle apparaisse, dans les faits du moins, l'idée de laïcité. La laïcité qui commence à apparaître à partir du XVIIIe siècle, mais qui sera traduite véritablement dans les faits, en France en tout cas, du moins au début du XXe siècle, avec la séparation de l'Église et de l'État, si, bon, sur la troisième si on veut, si on peut remonter un petit peu avant. Mais la laïcité part justement de la constatation qu'il y a une pluralité religieuse dans le pays. Cette pluralité, il faut l'assumer, il faut la gérer. On ne peut pas la supprimer. Et par conséquent, l'État se désengage religieusement par rapport justement aux différentes composantes religieuses du pays. Et l'État adopte une position de neutralité. Son rôle revient alors à être un rôle d'arbitre, c'est-à-dire précisément celui qui aménage la coexistence, celui qui aménage la tolérance entre les différentes composantes religieuses du pays et qui organise le vivre ensemble de ces différents courants religieux, vivre ensemble qui autrement, s'il n'y avait pas cet arbitrage de l'État, n'irait pas obligatoirement de soi. Et ce faisant, donc, l'État s'interdit de privilégier telle confession plutôt que l'autre. Cette création n'est pas française. C'est les États-Unis qui en donnent le premier exemple, le XVIIIe siècle, précisément parce qu'aux États-Unis, dès les origines, il y a une pluralité religieuse beaucoup plus grande encore que ne l'est la pluralité religieuse en France. Et par conséquent, l'État américain se doit justement d'avoir cette position et prend cette position. Il faudra donc un bon siècle encore pour que la France, en quelque sorte, adopte cette vision de la laïcité dans la fameuse déclaration, le préambule de la loi de 1905, la République ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. Mais à partir du moment où les différents cultes acceptent de se plier à la loi cadre, en quelque sorte, qui est élaborée par l'État, eh bien, toutes les religions ont droit de citer dans l'État français, et dans l'État laïque d'une manière générale. Alors, bien entendu, il y a des règles du vivre ensemble, justement. La pratique religieuse, et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, est une réalité qui relève désormais du domaine privé. Chaque individu est libre de pratiquer la religion de son choix ou de n'en pas pratiquer. C'est une question de conscience, c'est une question privée. Et le religieux, par l'État laïque, est rejeté dans la sphère du privé, puisque précisément, il n'est plus reconnu par l'État. Bien, cette situation est une situation ambiguë, parce que le fait que précisément il y ait une loi qui régisse le statut des cultes en France montre que finalement le culte n'est pas une affaire privée, que l'État a son mot à dire dans la réglementation des cultes. Il y a une certaine reconnaissance du caractère officiel du culte. Deuxièmement, le culte lui-même, le religieux, ne peut pas appartenir au domaine privé. le religieux doit s'exprimer publiquement. Et précisément, la loi de séparation d'Église et d'État reconnaît le droit justement du religieux de s'exprimer publiquement. Il réglemente, par exemple, l'usage des édifices religieux, leur statut, la manière des rassemblements à caractère religieux. Et la loi précise que ces rassemblements ne doivent pas mettre en cause le bon ordre, apporter atteinte au bon ordre. N'est-ce pas ? Lorsque une manifestation à caractère religieux trouble l'ordre public, la puissance publique intervient, ce qui montre bien que ce n'est pas quelque chose de privé. La loi réglemente, par exemple, les processions jusqu'aux sonneries de cloches. N'est-ce pas ? Par conséquent, l'usage aussi d'insignes religieux et choses semblables, vous savez que ce genre de problème a ressurgi il y a peu avec les fameux foulards islamiques et autres, et par ricochet, si vous voulez, autres insignes religieux, croix, étoile de David, des choses semblables qui pouvaient être arborées par les élèves, voire même éventuellement les professeurs. Alors, il y a donc ici une situation ambiguë. Et le fait, n'est-ce pas, que le religieux soit rejeté officiellement dans le domaine public porte aussi atteinte à la possibilité du religieux d'être reconnu en tant que tel. C'était d'ailleurs une des grandes raisons qui emmenait les catholiques à rejeter la loi de séparation d'Église et d'État de 1905, justement parce qu'ils refusaient d'être rejeté dans le domaine du privé. C'est incompatible de fait avec la vision religieuse. Et cette privatisation du religieux dans notre société a eu comme corollaire aussi, n'est-ce pas, la montée de l'individualisme, du relativisme dans ce domaine-là. Ça, c'est une des raisons aussi, et par conséquent, de l'incroyance. Ça, c'est une constatation qu'il faut faire. La laïcité n'a pas que des avantages. La laïcité, c'est vrai, permet effectivement la coexistence des différents cultes, mais aussi provoque, dans la mesure où ils sont tous mis sur le même plan officiellement, car je dis bien officiellement, dans les faits, en France, la religion catholique reste la religion officielle. Les grands moments de la vie de la nation, c'est toujours le catholicisme, vers le catholicisme qu'on se tourne, et c'est le catholicisme qui donne le la. Lors des funérailles d'un ministre protestant comme Gaston Defferre, qui avait donc des obsèques protestantes, les représentants de l'Église catholique sont intervenus presque comme s'ils étaient les premiers, n'est-ce pas ? Ce qui nous montre bien que le catholicisme reste en France, n'est-ce pas, la religion officielle par excellence, même si théoriquement, n'est-ce pas, les autres religions sont sur le même plan que l'est la religion catholique. Alors, cela provoque une relativisation dans les esprits, puisque l'État ne recommande plus aucune religion, c'est que toutes les religions se valent et que finalement, aucune n'est vraie. Et la laïcité, à la française, il y a deux manières de concevoir la laïcité, bien sûr. Il y a une laïcité ouverte, qui serait la laïcité de type anglo-saxon, où précisément ce caractère privé du religieux est tempéré par le fait que, justement, dans les grandes manifestations officielles, les différentes religions sont associées à part égale. C'est le cas en particulier aux États-Unis. En France, nous l'avons vu, ça l'est nettement moins. Et la laïcité à la française sera beaucoup plus une laïcité fermée, une laïcité agressive, car finalement il s'agit d'évacuer le religieux de tout ce qui a un caractère officiel. Bon, ça c'est la théorie, dans la pratique, encore une fois, dans les grands moments, ça ne joue pas. Mais officiellement, c'est ainsi. Et c'est ainsi que les représentants officiels de l'État n'auront pas le droit d'afficher leur appartenance religieuse. C'est particulièrement vrai au niveau de l'enseignement. C'est vrai au niveau des administrations ou des choses semblables, ce qui d'une certaine manière se conçoit, donc précisément dans un État laïque, précisément pour garantir la liberté de conscience de chacun, la liberté religieuse de chacun, et faire en sorte que précisément, que ce soit l'enfant à l'école ou que ce soit l'administré, n'est-ce pas, ne soit pas agressé dans sa liberté par rapport à ses options religieuses, mais ça a un autre effet pervers, n'est-ce pas, c'est que ça apprend à l'individu à se passer de Dieu dans tous les domaines de la vie. Et par exemple, au niveau de l'enseignement, on est obligé de remplacer, par exemple, les bases de la morale, qui étaient des bases religieuses, par finalement des bases qui ne le sont plus. Et finalement, comme il n'y a pas de morale en dehors, justement, d'une vision religieuse des choses, eh bien, on aboutit à plus de morale du tout. Sur le plan scientifique, on est obligé de recourir à des théories telles que la théorie de l'évolution, qui sont totalement éculées, qui sont totalement dépassées, mais que l'on continue à professer parce que finalement l'État est laïque, et qu'il n'est pas question, comme ce serait le cas dans une démocratie qui aurait une laïcité ouverte comme les États-Unis, d'enseigner à égalité, n'est-ce pas, les deux options, c'est-à-dire l'évolutionnisme et le créationnisme, ce qui a d'ailleurs été rétabli en Russie aussi, n'est-ce pas, mais en France, où on reste dans la perspective d'une laïcité fermée, c'est inconcevable, c'est inconcevable. Et alors, n'est-ce pas, la laïcité devient synonyme d'agnosticisme, voire d'athéisme, et la société française, la laïcité à la française, qui est une des laïcités les plus fermées qui soit en Europe, et même dans le monde, n'est-ce pas, est une laïcité qui apprend à l'enfant, dès son plus jeune âge, à se passer de Dieu dans tous les domaines, de sa vie, à se passer, comme disait le mathématicien Laplace, n'est-ce pas, se passer de l'hypothèse Dieu dans tous les domaines, ayant appris à se passer de Dieu, y compris au niveau de la pensée, de l'explication du monde et des choses semblables. La porte est grande ouverte, évidemment, pour l'agnosticisme et pour l'athéisme, et même pour une agressivité antireligieuse. Et c'est donc, si vous voulez, ce qui est typique de l'État français. La laïcité à la française a cette particularité-là. Alors, précisément, quelle est l'attitude du chrétien dans une pareille situation? Mais d'abord, il est certain que l'idée de tolérance et de laïcité sont des valeurs que le chrétien évangélique, protestant, n'est-ce pas, reconnaît et assume. Il les assume d'autant plus que précisément ce sont ces valeurs qui lui ont permis de trouver sa place en tant que minorité dans la société française majoritairement catholique, et je dirais façonné dans son esprit par le catholicisme. La France, justement, je reviens un peu en arrière, a ce laïcisme dogmatique, je dirais même doctrinaire, n'est-ce pas, parce que justement le passé catholique qui est le sien ne l'a pas formé à une ouverture d'esprit, comme c'est par exemple le cas dans les pays qui ont une tradition protestante, pays du nord de l'Europe, pays anglo-saxons, etc. De ce fait, n'est-ce pas, il y a transfert inconscient. Dans le domaine de la laïcité, n'est-ce pas, une laïcité doctrinaire, intolérante à la limite, n'est-ce pas, qui est un transfert du caractère dogmatique et doctrinaire et intolérant du catholicisme. Et les laïcs français, pas tous, mais beaucoup, n'est-ce pas, sont aussi intolérants vis-à-vis des gens religieux que les gens religieux l'étaient vis-à-vis des laïcs il y a encore un siècle, n'est-ce pas, au moment des grandes luttes, justement, en ce qui concerne les questions religieuses. Bon, donc, si vous voulez, le chrétien évangélique assume les valeurs de tolérance et les valeurs de laïcité parce que, justement, elles lui permettent, ainsi qu'à d'autres, bien sûr, de vivre dans la société française en tant que minorité. Deuxièmement, elle les assume aussi parce que les séminorités protestantes et juives ont milité en faveur de ces valeurs et ont contribué à les instaurer dans la société française. Et là, il faudrait parler longuement, n'est-ce pas, du rôle justement des protestants dans le gouvernement de la Troisième République. La Troisième République qui, petit à petit, justement, a évolué vers cette notion de tolérance et de laïcité. La proportion, n'est-ce pas, des protestants dans les différents gouvernements de la Troisième République, protestants et juifs, mais surtout protestants, n'est-ce pas, est énorme. Quand on en fait le calcul, comme l'a noté dernièrement d'ailleurs le journaliste français Alain Duhamel, la part prise par les protestants dans les gouvernements de la Troisième République est absolument sans aucune mesure avec leur importance numérique dans la société française. Et les protestants, n'est-ce pas, qui sont intervenus dans la Troisième République, ont employé en quelque sorte les pouvoirs qui étaient les leurs pour faire pénétrer justement dans la société française en général les valeurs de tolérance et les valeurs de laïcité. N'est-ce pas ? Ça, c'est une contribution protestante. On a pu d'ailleurs parler de la Troisième République comme d'une république protestante. Et lorsqu'au moment de l'affaire Dreyfus, les catholiques intégristes se sont déchaînés contre les protestants et les juifs qui avaient trusté les appareils de l'État, il faut reconnaître qu'ils n'avaient pas entièrement tort. Et qu'ils introduisaient effectivement, d'un point de vue catholique, des valeurs qui étaient absolument opposées aux valeurs catholiques. Le catholicisme du XIXe siècle étant farouchement opposé à la tolérance et à la laïcité. Par la suite, n'est-ce pas, il y a eu alors un affaiblissement de l'influence protestante au niveau du gouvernement, à partir notamment de la guerre. La Première Guerre mondiale, déjà entre les deux guerres, l'influence protestante a considérablement décru. Et donc, il y a eu radicalisation à la société française, à la fois donc un catholicisme très réactionnaire, qui a culminé avec le gouvernement de Vichy pendant la Deuxième Guerre mondiale, et jusqu'à un certain point avec le gaullisme, n'est-ce pas ? Jusqu'à mai 68, disons, et même après. Et puis ensuite, alors, les laïcs, qui alors, eux, se sont radicalisés d'une manière beaucoup plus agnostique et donc anti-religieuse, n'est-ce pas ? Et le vieil héritage anti-religieux de la Révolution française s'est trouvé plus ou moins récupéré. Tant et si bien que, justement, aujourd'hui, l'effacement du protestantisme dans le débat autour de la laïcité aujourd'hui radicalise des positions, n'est-ce pas ? Même si aujourd'hui beaucoup de catholiques sont ralliés à l'idée de laïcité, mais sporadiquement c'est un problème qui ressurgit à l'occasion par exemple des questions relatives à l'enseignement privé ou l'enseignement public, etc. Il y a, n'est-ce pas, ce vieux jacobinisme, ce vieux fond jacobin anti-religieux français qui ressurgit. Et actuellement, un certain nombre de membres des élites protestantes essayent de revenir dans le peloton, si j'ose dire. Et actuellement, notamment sous la direction de Jean Bobereau, il y a toute une tentative pour faire à nouveau entendre la voix protestante en ce qui concerne justement la laïcité. Et le protestant, par conséquent, ici, militera pour une laïcité, mais pour une laïcité ouverte. Non pas fermée, dogmatique, sectaire, hein, comme on la rencontre dans bien des milieux dits laïques, n'est-ce pas ? Mais pour une laïcité qui soit une laïcité de véritable tolérance. C'est-à-dire qui laisse aux minorités, car c'est ça la véritable démocratie. La démocratie n'est pas l'écrasement de la minorité par la majorité, les 49% par les 51% qui imposent leur loi aux 49%, mais précisément le dialogue au travers duquel s'instaure un modus vivendi, grâce auquel la majorité accepte de laisser à la minorité, eh bien, l'espace vital qui lui permet de de s'épanouir sans pour autant nuire, n'est-ce pas, à la volonté de la majorité. Et dans le dialogue religieux le débat religieux qui marque la France et puis l'Europe, n'est-ce pas, mais surtout la France, la voix du protestantisme se fait entendre, devrait se faire entendre, et se fait entendre, heureusement, par un certain nombre de gens lucides, justement, comme ceux que j'ai évoqués là, n'est-ce pas, pour, justement, cette laïcité ouverte, pour cette tolérance de tous les groupes minoritaires. Mais alors là, la critique que l'on pourrait adresser parfois à ces voix qui se font entendre, c'est peut-être aussi d'insister sur un autre plan, sur un autre point. C'est que si la majorité n'a pas à imposer sa loi, sa volonté à la minorité, il est absolument évident que la minorité aussi ne peut pas imposer non plus à la majorité des principes qu'elle rejette, qu'elle refuse. Et ceci est particulièrement vrai vis-à-vis de l'islam. Le problème de l'islam se pose dans notre société, et le problème de l'islam est complexe, parce que l'islam, justement, reste figé au Moyen-Âge. L'islam n'a pas connu, justement, l'évolution qui a été celle, justement, du christianisme et du judaïsme, qui ont vécu en symbiose, et qui ont précisément trouvé ce modus vivendi. L'islam n'a pas de tradition de tolérance au sens occidental du terme. La tolérance telle que la conçoit l'islam et la domination de l'islam sur la minorité, n'est-ce pas, et sur les minorités qui doivent vivre dans un état de subjection et non pas d'égalité. Tandis que la base de la laïcité telle qu'elle est conçue dans nos pays occidentaux, c'est que tous les hommes sont égaux devant la loi, sont égaux par essence, n'est-ce pas ? Quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur croyance, quelle que soit la couleur de leur peau, etc. Ça, c'est le principe de base, justement, de la laïcité telle qu'elle est conçue dans nos pays occidentaux et finalement telle qu'elle trouve ses bases dans la Bible. L'islam considère qu'il y a une inégalité de base entre les hommes et que les non-musulmans sont obligatoirement soumis aux musulmans, qui leur sont supérieurs. L'islam étant une religion supérieure aux autres. Par conséquent, l'islam revendique partout où il s'instaure une primauté qui demande d'être reconnue par la loi, par la charia, la loi islamique. Et ce faisant, ce qu'elle appelle tolérance, c'est tout simplement l'acceptation que les non-musulmans ne soient pas contraints de se convertir à l'islam, mais seront alors tenus dans un état de subjection. L'idée d'égalité des religions est insupportable à l'islam, et l'idée de tolérance à l'occidental, de laïcité, n'existe pas. Un État laïque est inconcevable dans la vision islamique, car l'islam est une religion qui pénètre tous les domaines de l'État, et les républiques dites islamiques sont là pour montrer justement que dans les domaines économiques, sociaux, politiques, militaires, etc., l'islam doit être la règle qui s'impose partout, n'est-ce pas ? Et c'est la raison pour laquelle l'intégration de l'islam dans le contexte occidental, français en particulier, pose un énorme problème. Parce que si d'un côté comme de l'autre, on revendique la tolérance n'est pas conçue de la même manière. Encore une fois, la tolérance pour les occidentaux, c'est l'égalité. Pour les musulmans, c'est l'inégalité. Et aussi longtemps qu'on n'aura pas résolu ce problème-là, eh bien, le problème de l'intégration des musulmans dans nos pays se posera de manière aiguë. Il est indispensable, et les pouvoirs publics français l'ont reconnu, n'est-ce pas ? Il est indispensable qu'avant toute intégration, l'islam reconnaisse les principes de la République. Il est vrai que l'on voit ça et là s'élever des voix pour parler d'une France pluriethnique, pluriculturelle, c'est-à-dire que les musulmans pourraient conserver leur culture même si cette dernière s'oppose aux lois françaises. Et précisément, l'histoire du foulard islamique est là pour montrer que là aussi les affrontements sont violents entre les tenants justement de ceux qui seraient d'accord pour un démembrement de la France, parce que ce serait une catastrophe terrible, n'est-ce pas, que d'entrer dans cette voie d'une France pluriculturelle, car il y aurait à ce moment-là juxtaposition de communautés qui auraient leurs propres institutions, leurs propres lois, et qui seraient donc dans un état d'affrontement permanent, de guerre civile permanente, n'est-ce pas? Et alors, bon, jusqu'ici, aucun gouvernement responsable n'a sérieusement envisagé ce type de transformation en profondeur de la société française, d'autant que les Français, dans leur ensemble, sont très attachés justement aux notions de laïcité, qui ont eu du mal à s'imposer, mais qui le sont maintenant dans la société française. Et de ce fait, les autorités françaises exigent comme préalable que les autorités musulmanes acceptent les notions de laïcité à la française et de tolérance à la française. Jusqu'ici, les autorités officielles musulmanes n'ont pas répondu positivement, n'est-ce pas, à cette volonté du gouvernement français, si bien qu'on se trouve dans une situation équivoque dans laquelle l'islam est reconnu sans lettre dans notre pays, et en même temps s'instaure de fait dans certaines zones où les musulmans sont majoritaires, et bien précisément une France pluriculturelle telle que la souhaitent justement les musulmans. C'est pourquoi, en tant que chrétiens évangéliques, nous ne pouvons pas rejoindre un certain nombre d'autres chrétiens protestants qui prônent justement cette France pluriculturelle. Et il nous faut rappeler que la loi, comme le dit d'ailleurs la Bible elle-même, n'est-ce pas, il y aura une même loi pour tous, pour l'autochtone comme pour l'étranger, et que l'étranger qui veut venir habiter au milieu de nous peut évidemment bénéficier de tous les avantages des lois françaises. Ça, c'est une des règles bibliques profondes, n'est-ce pas, mais aussi qu'il doit partager les mêmes devoirs, absolument les mêmes devoirs que celui des citoyens français. Que la loi s'applique pour tous, à la fois dans les droits dont les uns et les autres jouissent, mais aussi dans les devoirs que la loi impose justement aux uns et aux autres. Et là, justement, nous nous trouvons dans le grand débat de la laïcité aujourd'hui, et donc de la tolérance aujourd'hui. La tolérance, je terminerai là-dessus sur ce point, n'est-ce pas, est une notion profondément biblique, et en même temps quelque chose qui n'est pas facile à réaliser. D'ailleurs, l'histoire de nos pays, et au-delà, si on veut, justement, l'histoire des relations interreligieuses depuis deux millénaires, sont là pour montrer que la tolérance n'est pas quelque chose d'évident. Que ce soit le djihad, que ce soit les croisades, que ce soit l'inquisition, que ce soit les guerres de religion, sont là pour nous montrer que la laïcité et la tolérance ne sont pas des choses évidentes. Pourquoi ? Eh bien, ce genre de problème, quand on considère l'Antiquité, ne s'est jamais posé. Par exemple, l'Empire romain était une mosaïque de religions. Les empires d'Alexandre avant également. Le problème de la coexistence des religions dans l'Empire romain ne se posait absolument pas, pour une bonne et simple raison. C'est que le paganisme est naturellement tolérant. En effet, à partir du moment où vous avez, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, 653 dieux, si vous en ajoutez un 654e, ce n'est pas gênant. Et finalement, si vous découvrez que dans un certain coin de la planète que vous ne connaissiez pas jusqu'alors, vous avez des habitants qui adorent un dieu, un tel, de telle et telle manière, ben pourquoi pas ? Puisque déjà, dans votre propre culture, il y a le culte de Zeus, il y a le culte d'Apollon, il y a le culte d'Héra, il y a le culte de Vénus, etc., etc. Chacun avec ses prêtres, chacun avec son rituel, chacun avec sa théologie, chacun avec ses accentuations. Il y a un pluralisme de faits. Pourquoi ? Parce qu'il y a un relativisme total dans le paganisme. Et finalement, c'est Athènes, le dieu inconnu. Après tout, pourquoi il n'y aurait pas des dieux que nous ne connaissions pas ? À partir du moment où vous avez le monothéisme, les choses sont plus complexes. Le monothéisme dit, eh bien, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un. Il est l'unique. Et s'il est l'unique, eh bien, que deviennent tous les autres dieux ? Eh bien, ce sont des idoles, ce sont des évels, dit l'hébreu. Ça veut dire des néants. En d'autres termes, ça veut dire les dieux des nations n'existent pas. D'où l'accusation que les Romains adressaient justement aux Juifs, disant ce sont des athéoi, des athées, parce qu'ils nient l'existence des dieux. Et le monothéisme dit ceci, puisque Dieu est l'unique, puisqu'il est le créateur de l'univers, ce qui était quelque chose de révolutionnaire à cette période-là, dire Dieu créa le ciel et la terre au commencement, ça nous paraît évident après 2000 ans de christianisme. Mais c'était absolument révolutionnaire à l'époque de l'Antiquité. Pourquoi ? Parce que le propre du paganisme, ancien et moderne d'ailleurs, c'est l'éternité de la matière. La matière est éternelle et elle subit des transformations. Mais finalement, les dieux naissent de la matière. Les dieux ont eu un commencement. Même dans ce qu'on appelle le monothéisme égyptien, vous savez, le culte d'Ikhnaton, ce n'est pas un véritable monothéisme. Parce que ce dieu-là, le dieu soleil, a un commencement. Il est né de la matière, d'une matière, comme on pourrait dire, qui est avant toute chose, quoi. Or, justement, la révolution monothéiste, c'est dire « au commencement, Dieu !» Et ce qu'on voit, la matière, le ciel, la terre, sont créés par Dieu. C'est Dieu qui est éternel et la matière qui a un commencement. Tandis que le paganisme dit, c'est la matière qui est éternelle et Dieu ou les dieux ont un commencement. Et ça, c'est une révolution totale. Car si nous disons Dieu crée le ciel et la terre, il est le créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Eh bien, il y a un autre corollaire. L'Éternel est Seigneur. Il est roi de toute la terre. Il règne, il domine sur toute chose. Et finalement, il est le Dieu de tous les hommes. Et alors, précisément, la tâche des monothéistes, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens, et puis dans un troisième temps, qu'ils soient musulmans. C'est de faire prendre conscience aux hommes qui ne le savent pas, que Dieu est Seigneur, et qu'il est roi de tout l'univers. Et que par conséquent, rien n'échappe à sa souveraineté, et que tous les hommes doivent l'adorer, lui rendre hommage et lui être soumis. Alors pourquoi, justement, si Dieu est Dieu de toute la terre, tous les hommes ne lui sont pas soumis ? Il y a deux raisons possibles. La première, c'est qu'ils ne savent pas que ce Dieu-là est le Dieu de l'univers. C'est donc l'ignorance. Alors il faut dissiper l'ignorance. Et pour ça, bien, c'est l'ordre de Jésus, aller par toute la terre, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et puis ensuite, il y a un autre problème. C'est que parmi ceux qui sont instruits, vous en avez qui refusent de se soumettre à ce Dieu-là. Et c'est là le dérapage. Ces gens-là, s'ils le refusent, c'est donc qu'ils ont un cœur mauvais. C'est donc que, eh bien, ils sont méchants. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ces méchants ? Et la tentation, alors, vient de les contraindre. Et c'est de là que naît l'intolérance. les contraindre contre leur gré. Et là, il faut bien reconnaître que les religions monothéistes sont tombées dans ce travers. Que ce soit saint Augustin, qui, reprenant la parabole des conviés, disait, parlant des païens, « Contrains-les d'entrer !» Ou que ce soit l'islam, avec le djihad. Et ceux qui ne veulent pas, on les élimine par la force, et c'est l'Inquisition. On brûle les corps pour sauver les âmes, pour que l'esprit soit sauvé, n'est-ce pas, au jour du Fils de l'homme. Et alors, là, il nous faut reconnaître, honnêtement, que le monothéisme, parce qu'il est un absolu, et parce qu'il nous amène à avoir des convictions absolues, quand nous disons la Bible est le message de Dieu aux hommes de tous les temps, de tous les lieux, quand nous disons Jésus-Christ est le sauveur de tous les hommes, quand nous disons Dieu est le Dieu de l'univers entier, il est le créateur du ciel et de la terre, nous formulons des propositions qui sont des absolus et qui portent en elles, si nous n'y prenons pas garde, des germes d'intolérance. Encore une fois, le paganisme n'est pas fondamentalement intolérant. Vous allez me dire, mais il y a eu des actes d'intolérance, il y a eu persécution contre les chrétiens. Mais oui, justement, c'était une réaction. C'était une réaction parce que, justement, les chrétiens étaient considérés comme intolérants, comme l'avaient été les juifs au temps d'Antiochus Épiphane. Ils ont été persécutés par des gens qui se voulaient tolérants, parce qu'eux étaient considérés comme intolérants. Et nous retrouvons aujourd'hui un retour au paganisme. Un retour au paganisme sur deux points. Premièrement, justement, sur le plan philosophique. On est revenu à fond sur l'idée de l'éternité de la matière. C'est assez curieux, bien que maintenant le Big Bang, c'est-à-dire l'idée d'un commencement absolu de l'univers, soit un fait scientifiquement établi, la communauté scientifique et philosophique a du mal à accepter l'idée d'une création. Et l'on continue à parler d'une matière éternelle, matière absolue. Donc on est en plein dans un paganisme. Deuxièmement, parce qu'on est dans un relativisme. Tout se vaut. Et la tolérance aujourd'hui est considérée comme du relativisme. Tout se vaut et rien n'a d'importance. Toutes les religions se valent et elles valent zéro. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'absolu. Et on va même plus loin. Parce qu'il n'y a pas de vérité. On est arrivé au stade où l'on nie même l'idée qu'il puisse y avoir une vérité absolue. D'où l'expression qui est aujourd'hui, dans la société moderne, le fin du fin, le nec plus ultra de l'idée de tolérance, à chacun sa vérité. Chacun se fait sa petite vérité, comme disait le père Vernette. C'est le supermarché du religieux. Et chacun prend une pincée de nouvel âge, un zeste de christianisme, un peu de bouddhisme, un soupçon d'islam, etc. Et puis se fait son petit système, sa vérité. Alors, finalement, aujourd'hui, la tolérance est acceptée parce que finalement, il n'y a plus de certitude. Alors à quoi vont se battre pour des vérités qui n'existent pas ? À quoi bon se battre pour ma vérité ? Puisque ma vérité est ma vérité. Mais j'en suis pas sûr de ma vérité de toute façon. D'ailleurs, c'est ma vérité aujourd'hui, mais elle est susceptible d'évoluer. Alors à quoi bon se battre pour quelque chose qui est sans valeur, qui n'existe pas ? Et aujourd'hui, la tolérance, c'est le relativisme. Tout se vaut, ça veut dire rien n'a de valeur dans le domaine religieux, philosophique. Tout ça, c'est pareil. D'ailleurs, disent les braves gens, du moment qu'on est sincère, tous les chemins mènent au ciel. Le bouddhisme, l'hindouisme, le confucianisme, tout ça, c'est bon. C'est bon, du moment qu'on est sincère. Alors, je respecte celui qui est là, qui a cette pensée, qui est bouddhiste, qui est musulman, etc. Mais par contre, là où ça ne va plus, c'est quand quelqu'un a des convictions. C'est quand quelqu'un, justement, prône un absolu. Pourquoi ? Parce que dans l'inconscient, il y a le souvenir que les absolus, justement, ont conduit à des atrocités. Ce sont les absolus qui ont conduit aux croisades, qui ont conduit au djihad, qui ont conduit à l'inquisition, qui ont conduit aux guerres de religion. Alors plus d'absolu. Et celui qui a un absolu est potentiellement intolérant. Et encore une fois, ce n'est pas tout à fait faux. Je crois qu'il nous faut être prêt à entendre les critiques. Dieu annonce aujourd'hui, dira l'apôtre Paul à Athènes, à tous les hommes, sans tenir compte des temps d'ignorance, qu'ils aient à se repentir, car il a fixé un jour où il jugera chacune des actions secrètes des hommes. Chacun, chaque homme aura un jour à rendre compte devant Dieu. Et ça, c'est déjà un bémol. Un jour, tous les hommes rendront compte devant Dieu. Il y a des méchants. Il y a des méchants au milieu de nous, c'est vrai. Il y a des gens qui connaissent la vérité, qui rejettent la vérité, qui retiennent la vérité captive. Mais nous n'avons pas à exercer le jugement. C'est Dieu le juste juge. Dieu a fixé un jour où il jugera les actions des hommes. C'est donc pas à moi, croyant, de juger les hommes. D'ailleurs, Jésus nous l'interdit. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Entendu, ceux du dehors, bien sûr. Deuxièmement, et là nous revenons à notre propos de la dernière fois, au centre de la Bible, il y a la notion de liberté. L'homme, et je reviens sur ce que nous disions ensemble la dernière fois, est un être libre. Et même à Israël, peuple choisi, Dieu rappelle toujours cette liberté qui est la sienne. Je mets devant toi deux chemins. Le chemin de la vie, le chemin de la mort. Le chemin de la vie, si tu mets en pratique les commandements que je te donne aujourd'hui, le chemin de la mort, si tu choisis de ne pas vivre les commandements que je te prescris aujourd'hui. Deux chemins choisis, et tu dis, je te conseille de choisir la vie, mais l'homme est libre. Chaque être humain est totalement libre. Et c'est dans cela qu'à l'inverse de l'islam, le judéo-christianisme est fondamentalement et potentiellement tolérant. Parce que justement, il respecte la liberté de chaque individu, ou il devrait respecter la liberté de chaque individu face à l'appel souverain de Dieu, face à la souveraineté de Dieu. Il respecte la liberté de l'individu exactement comme Dieu respecte ma propre liberté. Et par conséquent, chaque être humain est un frère en humanité, pourrait-on dire. Chaque être humain est créé à l'image de Dieu. Et il est, comme Jésus l'a enseigné, mon prochain, même l'ennemi. Et quand je rencontre l'être humain, quel qu'il soit, même l'ennemi, je rencontre l'image de Dieu. Et si je dis que je sers Dieu, eh bien je dois respecter dans l'être humain qui est en face de moi cette image de Dieu. Et ce faisant, le christianisme, la Bible, le judéo-christianisme, pourrait-on dire, aboutit à la notion de tolérance. Et c'est la raison pour laquelle, avec beaucoup de peine, beaucoup de difficultés, parce que justement, la première option a été soulignée d'abord avec force, n'est-ce pas ? L'idée de tolérance, l'idée de liberté, l'idée de respect de la liberté de conscience a fini par se faire jour au sein de la conscience judéo-chrétienne. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Par contre, ce phénomène ne s'est pas produit dans l'islam. Pourquoi ? Parce que justement, l'islam n'avait pas cette notion. L'islam avait la notion du déterminisme, mektoub, c'est écrit, n'est-ce pas ? L'idée de la contrainte, n'est-ce pas ? Dar al-Islam bisaef, le règne de l'islam se propage par le glaive. Nous sommes dans une vision tout à fait autre. Mais c'est vrai que les contacts aussi avec l'islam n'ont pas aidé, et que les contacts avec l'islam ont amené le christianisme à se crisper justement dans une vision islamique des choses. Et la croisade, par exemple, dont on célébrera l'an prochain le millième anniversaire, est tout simplement une récupération chrétienne de l'idée musulmane du djihad. C'est le djihad dans la vision chrétienne, c'est tout, n'est-ce pas ? Alors, voyez-vous, il nous faut avoir cette vision totalement équilibrée. Et c'est très difficile dans la société moderne. Parce qu'encore une fois, dans la société moderne, si vous avez des convictions, si vous avez des absolus, si vous dites la parole de Dieu est la vérité, ce qu'elle dit elle-même d'ailleurs, ta parole est la vérité. Si nous disons les lois de Dieu sont valables pour tous les hommes de tous les temps, de tous les lieux, vous êtes un individu considéré comme intolérant. Vous n'êtes pas prêt à accepter la vérité de celui qui est en face de vous, qui va être un joyeux païen, qui va être... Alors, il y en a qui le sont. Dans certains milieux libéraux, alors oui, tous les hommes sont sauvés, quel qu'il soit, Hitler est sauvé, Staline est sauvé, etc. Bon, c'est anti-biblique. C'est anti-biblique. Si on dit autrement, on est intolérant, considéré comme intolérant. Et si on explique que, oui, mais je laisse chacun libre, chacun est libre. Bon, ça va un peu mieux, ça va un petit peu mieux. C'est pas obligatoirement extra. Et précisément, le débat de la laïcité dans notre société est celui-là. À la fois, donc, sur le plan des institutions, et je termine là-dessus, comme je l'ai montré tout à l'heure, combat pour une laïcité ouverte, avec réciprocité. Il y aura une même loi pour l'étranger comme pour l'autochtone. Avec l'exigence légitime du chrétien d'être respecté dans sa foi et dans ses convictions. Avec, en contrepartie, l'engagement de respecter les convictions des autres, de respecter le cheminement des autres, non pas parce que la loi française l'exige, mais parce que l'Évangile l'exige. Parce que c'est l'essence même de l'Évangile. Ça ne veut pas dire qu'on partage, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un débat d'idées possible, ça ne veut pas dire qu'il y a une confrontation, il y a une confrontation dans le domaine des idées. Et vivre l'Évangile, c'est un combat. C'est un combat pour la vérité. Et nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, au nom d'une laïcité fermée ou d'une laïcité relativiste, cesser de combattre pour la vérité. Mais le combat, c'est dans le domaine des idées. Et comme l'avait très bien noté Francis Schaeffer, avant sa mort, il y a déjà un certain nombre d'années, il disait, les temps qui viennent impliqueront une confrontation avec les idées en vogue, les idées du monde, une confrontation dans l'amour, mais une confrontation quand même. Et je crois qu'on saurait mieux dire, n'est-ce pas ? Et en tant que chrétiens, nous devons revendiquer, au nom de la laïcité, au nom de la tolérance, le droit à cette confrontation. Confrontation dans l'amour, mais confrontation quand même dans le domaine des idées. Alors on dira, mais il y a toujours le danger que la confrontation d'idées aboutisse à la confrontation tout court. Non, pas obligatoirement. Et précisément à nous d'avoir suffisamment d'amour, justement. L'amour est là. L'amour ne fait pas de mal au prochain. Et c'est pourquoi la confrontation, et Schaeffer insistait énormément là-dessus, doit être une confrontation aussi dans l'amour. Comme le faisait Jésus, n'est-ce pas ? Dans l'amour, comme le faisait Paul, de telle manière que le but ne soit pas d'écraser l'adversaire par des arguments plus forts que les siens, mais de le persuader, de faire en sorte qu'il voit briller la lumière pour en sauver, comme disait l'apôtre Paul, de toute manière quelques-uns. Alors voilà, si vous voulez, comment se pose aujourd'hui le problème de la tolérance, de la liberté religieuse et de la laïcité. Voilà, est-ce que vous avez des... Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui. Et oui. Et oui, parce que ils avaient la mentalité des Occidentaux, hein, ouais. Ça c'est sûr. Hein. Nous on se heurte à ça. Hein.
Parce qu'on utilise polythéisme,
tout à fait. Tout à fait. Au début, ça allait bien. Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Bon, c'est pas gênant. Qu'est-ce que vous voulez des dieux ? Encore des divinités étrangères ? Une de plus, une de moins ? Mais, le dieu unique, là, c'est autre chose. Bien, autre chose ?